Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler d'argent, de pognon, de flouze, etc. C'est le nerf de la guerre en territoire capitaliste. Et cette semaine du 11 au 17 novembre avait lieu la semaine de la finance solidaire. Loin de révolutionner la société, cette finance solidaire a au moins pour effet de permettre d'utiliser son épargne, pour ceux qui en ont, à financer autre chose que le grand capital, les énergies fossiles et tutti quanti. Pour vous renseigner, cherchez FinanSol, un label, sur votre moteur de recherche préféré, FINANSOL, un label de l'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous aussi auprès de l'association Les Amis de la Terre, qui ont un fascicule pour choisir sa banque en conscience. Bon, bah, on va pas maintenir le suspense très longtemps, hein. La BNP Paribas, non, c'est pas la peine. La Société Générale non plus. Le Crédit Lyonnais, le LCL, le Crédit Agricole, non, c'est pas bien placé tout ça. Donc si vous avez de l'argent chez eux, eh ben, enlevez-le et mettez-le ailleurs. Chacun dans son coin peut contribuer à une planète un petit peu moins dégueu. Alors ben, un petit effort, on aurait pu vous parler de girouettes. La droite et l'extrême droite, qui se confondent de plus en plus, ont toujours réclamé une fermeté absolue contre les délinquants. Cette semaine, une femme à la tête d'un parti politique qui a détourné plusieurs millions d'euros au Parlement européen en finançant les activités du parti avec de l'argent destiné au boulot d'assistants parlementaires, a supporté des réquisitoires à la hauteur des infractions par des procureurs dont le métier est de charger la mule. Seulement, la femme en question s'appelle Marine Le Pen, à la tête du Rassemblement National, successeur du Front National, dont le slogan était « Tête haute, main propre ». Ah oui, depuis mercredi, et les réquisitoires, le banc et l'arrière-banc de la fachosphère, hurlent à l'assassinat politique. En oubliant totalement l'objet du réquisitoire, en l'occurrence, la justice, toujours trop laxiste, si on croit les Ciotti, Darmanin et autres Louis Alliot, devient tout à coup un monstre militant, oui, sans que jamais ne soit rappelé pourquoi il est réclamé des peines de prison et d'inéligibilité contre une vingtaine de prévenus du parti d'extrême droite. Ils ont piqué dans la caisse, oui, pour faire grossir le parti, oui, l'un des arguments des défenseurs des indélicats est qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Si mon parti détourne des fonds publics pour que je devienne plus puissant, que j'ai un peu plus de chances d'être élu, que ma notoriété s'accroisse, on peut tout de même se dire que si je n'ai pas gagné d'argent au sens strict, j'en ai quand même bien profité. On nous dit aussi que François Bayrou et le Modem avaient les mêmes problèmes. Alors, on parlait de 300 000 euros, on parlait d'une dizaine d'individus. Voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Il a été relaxé quand même, mais sur ceux qui étaient inculpés, 8 ont eu de la prison ferme et de l'inéligibilité, et aussi quoi d'autre ? Des amendes. Donc là, du coup, bizarrement, quand ça touche au Rassemblement National, c'est un complot. Ouais, Rachida Dati est dans la même veine. Des complots. Il y a des complots de la justice, des complots contre tout le monde, sauf contre le délinquant, bien sûr. Ah, alors à partir du moment où on taxe de l'argent pour faire autre chose que ce pourquoi il avait été destiné, on n'est pas un délinquant. Il va falloir revoir le droit. La semaine prochaine, les plaidoiries des avocats de la défense. Ça va être coton. On aurait pu vous parler des pogroms et lynchages d'Amsterdam. C'est peut-être un peu trop pogrom, c'est peut-être un peu trop lynchage. Vous avez tous entendu les commentaires délirants sur les bagarres entre supporters ayant eu lieu à Amsterdam début novembre. Oui, des bagarres entre supporters de foot. Ça arrive malheureusement tous les dimanches, même dans la Sarthe. Lors d'un match de football entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax d'Amsterdam. Vous avez aussi vu des images, notamment un groupe escorté par la police qui courait et balançait du mobilier urbain et des pierres sur d'autres personnes dans les rues d'Amsterdam. Sur BFM, le commentateur, on va l'appeler comme ça parce que journaliste, ça veut dire autre chose. Ouais, ça veut dire vérification des sources, volonté d'établir la vérité, etc. Donc là, le commentateur annonce des militants pro-palestiniens qui coursent des Israéliens. Mais ils n'ont pas dit des Juifs quand même, mais des Israéliens. Eh ben, en fait, c'était l'inverse. C'était des supporters du Maccabi Tel Aviv, ceux qui chantent des chansons où il est dit qu'il faut tuer tous les Arabes. Oui, je traduis pas l'hébreu, mais ceux qui les ont traduits, ces chants de supporters du Maccabi Tel Aviv, nous ont dit que ça voulait dire ça, et a priori, personne ne les a contredits. Donc c'était l'inverse, c'était des militants, mais des supporters du Maccabi Tel Aviv qui coursaient des gens. qui coursaient des jambes qui n'avaient pas forcément la bonne couleur. La veille au soir du match, ils avaient tabassé un taxi qui n'avait a priori pas la bonne couleur. Ah oui, ces gens sont un tout petit peu dangereux. Eh ben en fait, comme c'était l'inverse, la chaîne BFM TV a mis 5 jours. 5 jours à le reconnaître. C'est quand même incroyable, hein ? Eh oui, l'important, ce n'est pas la vérité, mais c'est ce que vous en faites. Le temps de comprendre ce qu'il se passe n'a plus sa place à l'heure des chaînes d'infos en continu. Faut faire de l'audience, et c'est souvent au détriment de la réalité des faits. On aurait pu vous parler des grèves qui se multiplient, les cheminots, l'aérien, l'ensemble de la fonction publique, les agriculteurs. Pour des raisons diverses et variées, plusieurs corporations appellent à des actions nationales en novembre et décembre. Si vous en êtes, n'oubliez pas que dans le privé, comme on dit, il n'y a pas besoin de préavis de grève. Vous pouvez le matin même faire grève sans qu'une organisation syndicale n'ait prévu une grève. Pourquoi ? Ben, je sais pas, il vous arrive un truc, voilà. Dans le public, un préavis est nécessaire. Renseignez-vous pour savoir si une organisation syndicale représentative a déclaré un préavis. Auquel cas, vous pouvez vous déclarer en grève. Alors non pas pour le plaisir, hein, ben parce que oui, on perd de l'argent à partir du moment où on fait grève. Mais plutôt pour l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des rémunérations, la défense des services rendus au public, etc. On en reparle. On aurait pu vous parler des entrepôts géants qui s'installent un petit peu partout en France, au détriment des terres agricoles.
Ça devient insupportable, je deviens fou.
Petit hommage à tous ceux qui travaillent dans ce genre d'entrepôt et qui tiennent pas très très longtemps. Bah ouais, quand il y a un truc qui vous dit à droite, à gauche, c'est là, tel rang, machin, toute la journée dans votre oreille, à mon avis, ça rend un petit peu dingo. C'est ce qu'on a pu voir dans des reportages télévisés. Dans le Loir-et-Cher, le tribunal administratif d'Orléans a donné 10 mois à l'entreprise Télamon pour régulariser son autorisation environnementale obtenue en 2021 grâce à la préfecture. Une autorisation environnementale donnée par la préfecture pour faire des entrepôts géants de 10 hectares et 5 hectares à mer, près de Chambord. Le tribunal a statué dans ce sens au titre de l'absence de compensation sur les 35 hectares de terres agricoles et boisées que devraient occuper les deux projets d'entrepôt géant, l'entrepôt plus les parkings plus ceci plus cela. 35 hectares en tout. En termes de taille, le projet Télamon de mer dans le Loir-et-Cher est proche du projet qui est en cours dans l'est de la Sarthe, à Chéréau, près de la Ferté-Bernard. En septembre dernier, nous avions rencontré un militant de l'association Sartoise Environnement qui nous en dit plus sur le projet en question.
Clément Jourdain, et donc je suis un des militants du collectif Stop Amazon 72.
Alors il existe un certain nombre de projets d'entrepôts dans la Sarthe, d'entrepôts géants, d'entrepôts logistiques. Il y en a un à Chéréau. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire où est Chéréau ?
Alors Chéréau, c'est juste à côté de la Ferté-Bernard. Et qui se trouve, la pauvre, juste entre la Ferté-Bernard et la sortie de l'autoroute qui se trouve à côté. Donc là, il n'y a pas un projet, mais deux, et qui sont assez énormes. Il y a un projet qui est promu par le constructeur qui s'appelle GLP, et qui consiste à construire deux bâtiments de 75 000 et de 50 000 m², ce qui fait un total de 125 000. Ce serait de très loin les plus gros entrepôts de la Sarthe. Et puis juste à côté, mais vraiment ils sont collés, il y a un autre constructeur qui s'appelle Barjane, qui veut faire aussi un entrepôt de 25 000 m². C'est de la pure logistique, c'est-à-dire c'est purement du stockage, hein, avec des camions qui chargent et qui déchargent. C'est sur des terres agricoles. Il n'y a pas de... Tout le monde parle de récupérer des friches, de ne pas artificialiser. Là, on se met dans des terres agricoles qui sont pour l'instant vierges de tout béton et on les recouvre. Donc le projet GLP, ça représente 33 hectares donc de terres qui vont être détruites.
Et la municipalité de Chéréau se moque totalement du fait que, justement, on va prendre sur les terres agricoles. Ils ont donné l'autorisation pour ce genre de projet.
Oui, la mairie est sollicitée puisqu'il y a un permis de construire. Il y a aussi une autorisation environnementale qui est donnée par la préfecture. Mais le premier, en tout cas chronologiquement, c'est le permis de construire. Et la mairie de Chéréau, avec l'aide des services techniques de la communauté de communes, il y a beaucoup de choses qui sont pilotées par la Ferté-Bernard et par M. Revaux, qui est à la fois le maire de la Ferté-Bernard et président de la communauté de communes, ont tous donné leur accord sans hésitation. Ce sont des gens qu'on a rencontrés, hein, en tant qu'association, on essaye de parler avec eux, de leur demander si justement, au-delà des considérations économiques, des emplois qui les font un peu fantasmer, il y a vraiment une prise en compte des considérations de la population. Ce sont plus des gestionnaires, en plus un peu à l'ancienne, on peut le dire, que véritablement des gens qui sont préoccupés et des conséquences pour le territoire et des conséquences pour les gens sur place.
Vous parlez d'emplois un peu fantasmés, parce qu'il est vrai qu'à chaque fois qu'on a ce genre de projet, ou l'implantation d'une usine, ou etc., il est dit que ça va créer des centaines d'emplois. Et là, est-ce que vous avez fait des calculs savants? Qu'est-ce qui est indiqué par les promoteurs et vous, qu'est-ce que vous voyez?
Alors les calculs savants, je n'aurais pas la prétention de faire des calculs savants, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec d'autres collectifs Stop Amazon, il y en a partout en France. Enfin, d'ailleurs, Stop Amazon, c'est Stop Logistique. Hein. On a bien compris que ce n'est pas uniquement Amazon, c'est tous les constructeurs et qui ont les mêmes projets. Pour 1000 m² d'entrepôt, donc là on parle de 125 000 m², il y a entre 2 et 3 emplois de promis. Là où je parle de fantasmer, deux choses. D'abord, lorsque vous, c'est pas moi qui l'ai fait cette étude, hein, là, c'est une étude sérieuse de l'OCDE, et lorsqu'on crée un emploi dans la logistique, on en détruit deux dans le commerce local. Donc c'est quand même pas vraiment une création d'emploi. Et puis autre élément quand même qui est pas négligeable, alors là c'est spécifiquement Amazon, parce que c'est quand même le champion du monde de la logistique. Chez Amazon France, 2 personnes sur 3 ne tiennent pas plus de 3 mois lorsqu'elles ont un job. Alors, on cite toujours le parfait contraire, c'est ce que les élus nous font de l'ingénieur en logistique ou je sais quoi, mais le gars qui soulève les palettes et qui remplit les trucs, je dis le gars, c'est très masculin, c'est des boulots très physiques, puis même psychiquement difficiles, hein, on est piloté par des écouteurs, etc. Il y a 1 personne sur 3 seulement qui tient plus de 3 mois. Un job qui dure 3 mois, c'est pas un job. Donc, je pense que là, oui, c'est des jobs fantasmés. Oui.
Quelle est l'avancée des travaux?
Alors, les travaux n'ont pas commencé, Dieu merci. Par contre, malheureusement, en tout cas à La Ferté-Bernard, ces deux projets-là sont au niveau réglementaire pas mal avancés, puisque donc les deux permis de construire ont été autorisés. Et dont la préfecture a donné son autorisation environnementale cet été, puisqu'il y a forcément une enquête publique, il y avait une enquête publique, et malgré les conclusions du commissaire enquêteur qui étaient très 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 négatives. Bon, mais le préfet n'en a pas tenu compte et donné son accord. Les associations que l'on aide, hein, puisque nous on est le collectif, mais il y a une association Ville Sartoise Environnement, ont déposé systématiquement des recours, gracieux puis contentieux, contre toutes ces autorisations. Et on en est à ce moment-là, en fait. On est au judiciaire, entre les accords qui ont été donnés par et la mairie et la préfecture, et nos recours qui ont été déposés très récemment. Tout ça, c'est vraiment de l'actualité, parce que c'est cet été, quoi. Les décisions vont venir dans les mois qui viennent, aussi bien pour ce qui est de Barjane que pour ce qui est de GLP. Hein, c'est au tribunal administratif. Et puis après, il y a des notions d'appel, de choses comme ça. C'est un petit peu complexe. Mais on attend les décisions pour la fin de l'année.
Pour l'instant, pas d'infos sur les décisions administratives. On vous tient au courant. Et pour tous ceux qui voudraient faire quelque chose contre l'implantation des entrepôts géants, bah déjà lutter contre sa consommation personnelle de produits livrés à domicile. Parce que comme disait l'autre...
Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas.
Eh oui. Mais finalement, on a préféré vous parler de guerre et paix. Et c'est pas du Tolstoï. Lundi dernier avait lieu des commémorations pour que nous nous souvenions d'une boucherie appelée la Première Guerre mondiale. Plus de 10 millions de morts en 4 ans, plus de 20 millions de blessés, des millions d'orphelins, de veuves, des millions d'ex-combattants brisés par ce qu'ils ont vécu, des millions d'ex-combattants motivés par la revanche. Une guerre comme une autre, une quantité invraisemblable de destruction et de malheur qui prépare les destructions et les malheurs du futur. Une guerre. Voilà. Le 11 novembre, une poignée de grands de ce monde, pété de la REP, premier ministre, ministres divers et variés, sont venus se faire voir à Meaux, près du musée de la Grande Guerre, pour nous distiller la bonne parole. Lors de l'intervention de Michel Barnier, qui est le premier ministre actuel, très majoritaire, on a pu entendre ça.
Le premier message aux jeunes d'aujourd'hui que je voulais vous dire à Meaux, engagez-vous. Engagez-vous pour le climat. Engagez-vous contre la pauvreté, la précarité, l'isolement.
Le voilà donc écologiste et communiste, le premier ministre minoritaire de droite et majoritaire avec l'extrême droite. Il demande à la jeunesse de devenir anticapitaliste, puisque la production capitaliste est le moteur du dérèglement climatique. Il lui demande également d'être antilibéral en économie, puisque l'égoïsme qui sert de boussole au libéralisme est incompatible avec la lutte contre la misère, la pauvreté, l'exclusion, etc. On croit rêver, mais finalement, on a juste écouté la suite.
Engagez-vous pour la transmission de notre patrimoine, de notre histoire, notre culture, notre patrie. Pour les plus âgés d'entre vous, engagez-vous dans des mouvements de jeunesse, des associations pour la défense de notre pays. Engagez-vous y compris dans des mouvements politiques. Ce que j'ai appris personnellement, mesdames et messieurs, très tôt, c'est que si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. La France a besoin de vos talents pour irriguer notre nation et concevoir des réponses aux défis de l'avenir.
Ah ben non, en fait, c'était juste un discours nationaliste de plus. Défense de notre histoire, de notre patrimoine, de notre patrie. Juste un discours de plus qui participe à faire croire à la population française que les autres, au-delà des frontières, qui est une création artificielle totalement humaine, n'est pas du tout tout à fait, ils ne sont pas du tout tout à fait comme les autres, comme nous, pardon, les autres. Encore un discours qui conforte l'idée d'une hiérarchie entre les humains. L'air de rien, hein, juste comme ça, distillé là. On ne parle pas des valeurs républicaines à défendre, hein, liberté, égalité, fraternité, mais bien de notre patrimoine et notre patrie. Autant d'éléments identitaires au sens de l'identité nationale. Cette chimère qui permet de connaître les bons et les mauvais Français. Franchement, moi je préférais le début. Hein. Alors du coup, on va se remettre.
Le premier message aux jeunes d'aujourd'hui que je voulais vous dire un mot. Engagez-vous. Engagez-vous pour le climat. Engagez-vous contre la pauvreté, la précarité, l'isolement.
C'est quand même beaucoup plus universel comme message, beaucoup moins rabougri, beaucoup moins ratatiné à l'intérieur de nos frontières, à l'intérieur de notre histoire, à l'intérieur de... Voilà, ouais, plus d'ouverture. Le climat, la misère, concernent toute l'humanité, sans frontières ni patrie. Une autre idée qui est aussi universelle, c'est la paix. Et sachez que la Sarthe ne comporte qu'un seul monument dédié à la paix. Ce monument est à Allon, square d'Elmenhorst, du nom d'une ville allemande avec laquelle Allon est jumelée. Depuis 2009, un groupe d'associations vient se recueillir devant le monument pour la paix chaque 11 novembre. Lundi 11 novembre 2024, la Libre Pensée, l'ARAC, c'est-à-dire l'Association Républicaine des Anciens Combattants, la Ligue des Droits de l'Homme et depuis l'an dernier l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, ont pris la parole devant une cinquantaine de personnes pour dénoncer la guerre et ses conséquences. Mais au fait, la guerre, qu'est-ce que c'est ?
J'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le
J'ai comme guerre, c'est l'idée que des conflits entre les gouvernements peuvent être résolus par la violence. Ce sont les plus riches qui décident de faire la guerre, mais ce sont des travailleurs et des travailleuses et des paysans qui y sont envoyés. Plusieurs y meurent pendant que les enfants et les femmes pauvres des pays touchés souffrent grandement de cette violence. On a tiré ça du dictionnaire anarchiste des enfants que vous pouvez trouver aux éditions Atelier de création libertaire, atelierdecréationlibertaire.com. À offrir, c'est bientôt Noël. Et ça nous rappelle une phrase attribuée au philosophe Paul Valéry, la guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. La guerre est fille du patriotisme, alimenté par la propagande nationaliste. En 1911, une certaine Emma Goldman, bien connue dans le continent nord-américain pour avoir été anarchiste, écrivait ceci. Le patriotisme, une menace contre la liberté. Qu'est-ce que le patriotisme ? Est-ce le fait d'aimer le lieu où l'on est né, l'endroit où se sont déployés les rêves et les espoirs de notre enfance, nos aspirations les plus profondes ? Est-ce l'endroit où, dans notre naïveté enfantine, nous regardions les nuages défiler dans le ciel à vive allure en nous demandant pourquoi nous ne pouvions nous déplacer aussi rapidement ? Le lieu où nous comptions des milliers d'étoiles scintillantes, effrayées à l'idée que chacune d'entre elles puisse être l'un des yeux du Seigneur et fût capable de percer les grands secrets de notre petite âme ? L'endroit où nous écoutions le chant des oiseaux et désirions ardemment avoir des ailes pour voler, tout comme eux, vers de lointaines contrées, ou celui où nous nous asseyions sur les genoux de notre mère, fascinés par des contes merveilleux, relatant des exploits inouïs et d'incroyables conquêtes. En résumé, le patriotisme se définit-il par l'amour pour un morceau de cette terre où chaque centimètre carré représente des souvenirs précieux, chers à notre cœur, et qui nous rappelle une enfance heureuse, joyeuse, expiègle ? Si c'était cela, le patriotisme, il serait difficile de faire appel à ces sentiments aujourd'hui en Amérique. En effet, nos terrains de jeu ont été transformés en usines, en fabriques et en mines. Et le vacarme assourdissant des machines a remplacé la musique des oiseaux. Il ne nous est plus possible d'écouter de belles histoires, de rêver à de nobles exploits, car aujourd'hui nos mères ne nous parlent plus que de leurs peines, leurs larmes et leurs douleurs. Alors qu'est-ce que le patriotisme ? Le patriotisme aujourd'hui est l'ultime ressource des vauriens, a déclaré le docteur Johnson. Léon Tolstoï, le plus célèbre célèbre des antipatriotes de notre époque le définit ainsi. Le patriotisme est un principe qui justifie l'instruction d'individus qui commettront des massacres de masse. Un commerce qui exige un bien meilleur outillage pour tuer d'autres hommes que la fabrication de produits de première nécessité, chaussures, vêtements ou logements. Une activité économique qui garantit de bien meilleurs profits et une gloire bien plus éclatante que celle dont jouiront jamais l'ouvrier moyen. Gustave Hervé, un autre anti-patriote français, lui, considère le patriotisme comme une superstition bien plus dangereuse, brutale et inhumaine que la religion. La superstition de la religion provient de l'incapacité de l'homme à expliquer les phénomènes naturels. En effet, lorsque les hommes primitifs entendaient le roulement du tonnerre ou voyaient des éclairs, ils ne pouvaient leur trouver d'explication. Ils en concluaient donc que derrière ces phénomènes se cachait une force plus puissante qu'eux-mêmes. De même, les hommes ont vu une entité surnaturelle dans la pluie et dans les différentes manifestations de la nature. Le patriotisme, quant à lui, est une superstition créée artificiellement et entretenue par tout un réseau de mensonges et de faussetés. Une superstition qui enlève à l'homme tout respect pour lui-même et toute dignité et accroît son arrogance et son mépris. En effet, mépris, arrogance et égoïsme sont les trois éléments fondamentaux du patriotisme, reprend Emma Goldman. Permettez-moi de vous donner un exemple. Suivant la théorie du patriotisme, notre globe serait divisé en petits territoires, chacun entouré d'une clôture métallique. Ceux qui ont la chance d'être nés sur un territoire particulier se considèrent plus vertueux, plus nobles, plus grands, plus intelligents que ceux qui peuplent tous les autres pays. Et c'est donc le devoir de tous les habitants de ce territoire de se battre, de tuer et de mourir pour tenter d'imposer sa supériorité à tous les autres. Il est vrai que tout petit, déjà, on nous galvanise avec ce patriotisme. Tiens, par exemple, dans les rencontres sportives, avec les récits des grands hommes de la nation, avec le roman national, le patriotisme est excluant par nature et s'attache à activer notre cerveau reptilien, celui qui s'inquiète de la différence. Le 11 novembre de chaque année, on commémore l'armistice de la Première Guerre mondiale sur le front ouest. Une guerre de 4 ans. En février de 1915, une trentaine d'anarchistes, dont Emma Goldman, à l'initiative de l'Italien Enrico Malatesta, ont signé un texte intitulé « L'internationale anarchiste et la guerre ». Après avoir rappelé le rôle de l'État et de toutes les formes d'État qui participent à cette guerre, à monarchie autoritaire ou parlementaire et république dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ces anarchistes expriment leur rejet de la guerre. Je cite « Nous sommes résolument contre toute guerre entre peuples. Et dans les pays neutres comme l'Italie, où les gouvernants prétendent jeter encore de nouveaux peuples dans la fournaise guerrière, nos camarades se sont opposés, s'opposent et s'opposeront toujours à la guerre avec la dernière énergie. Le rôle des anarchistes, quel que soit l'endroit ou la situation dans laquelle ils se trouvent, dans la tragédie actuelle, est de continuer à proclamer qu'il n'y a qu'une seule guerre de libération, celle qui, dans tous les pays, est menée par les opprimés contre les oppresseurs, par les exploités contre les exploiteurs. Notre rôle, c'est d'appeler les esclaves à la révolte contre leur maître. La propagande et l'action anarchiste doivent s'appliquer avec persévérance à affaiblir et désagréger des différents États, à cultiver l'esprit de révolte et à faire naître le mécontentement dans les peuples et dans les armées. Continue ensuite dans ce manifeste un ensemble de recommandations pour amener jusqu'à l'anarchie. Ce manifeste n'a pas arrêté le conflit, ni les suivants. Et depuis, on pourrait croire que les informations sur les guerres et les conséquences auraient amené des générations d'antimilitaristes. En effet, dans les années 70, des mouvements lycéens et étudiants ont lieu contre le militarisme et en particulier contre le service national, contre l'embrigadement de la jeunesse pour une durée parfois indéterminée dans des casernes. Et au cours de manifestations, on peut entendre le fameux slogan « L'armée, ça pue, ça tue et ça rend con ». Et depuis ? Eh bien malheureusement, on apprend en avril 2024 par Anne Muxel, sociologue, qui rend des conclusions à propos d'une étude faite pour le ministère des Armées et qui s'intitule « Les jeunes et la guerre », sous-titré « Représentation et disposition à l'engagement », on apprend beaucoup de choses sur cette jeunesse. Une étude sur 2301 jeunes de 18 à 25 ans, sélectionnés selon la méthode des quotas si chère aux sondeurs de tout poil. On apprend dans ce document que la moitié des jeunes seraient prêts à entrer dans l'armée si le besoin se fait sentir, filles comme garçons. À la question « Quand vous pensez à l'armée française aujourd'hui, selon vous, faudrait-il ?» Plutôt augmenter les moyens de l'armée, plutôt ne rien changer, plutôt diminuer les moyens de l'armée, plutôt supprimer l'armée. 3% seulement de l'échantillon de 2301 jeunes répondent qu'il faudrait supprimer l'armée. 9% de ce même échantillon proposent de diminuer les moyens. Et 53% assurent qu'il faudrait augmenter les moyens des tueurs patentés. Il faut dire que la propagande des lobbies militaires est importante et que depuis toujours, on entend que nos militaires n'ont pas assez de matériel ou qu'il est obsolète, etc. etc. Et pourtant, les dépenses militaires mondiales en 2023 ont atteint 2400 milliards de dollars US, d'après le CIPRI, c'est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Toujours en hausse, ces dépenses militaires depuis 2009, et la France ne fait pas exception. En plus, dans notre étude là, sur 2301 jeunes, les deux tiers des sondés pensent que le retour d'un service militaire est une bonne chose. Mais dans ce bas monde, il reste encore des opposants à la guerre. En France, on peut citer l'Union pacifiste, la section française de l'Internationale des résistants à la guerre. Et par exemple, il y a dans le monde entier, dimanche 17 novembre, des manifestations contre la guerre en Ukraine, qui sont organisées à l'appel d'opposants russes, dont la veuve de Navalny, qui est mort au début de l'année. En France, ça se passe à Lyon, à Marseille, à Strasbourg et à Paris. Alors au vu du deux poids deux mesures qui animent les libéraux nationalistes qui nous gouvernent, les manifestants qui porteront un drapeau ukrainien n'auront rien à craindre. Et tant mieux pour eux. Et comme chaque samedi, dans plein de territoires, dans plein de ville en France, et ça sera à 14h le 16 novembre, place de la République au Mans, eh bien il y aura une manifestation pour l'arrêt des combats dans les territoires occupés de la Palestine et au Liban. Donnons la conclusion à Kevin Lamberdière-Casta. Parce que dans ce monde de brutes, où il y a de plus en plus de gens à considérer que la guerre s'avère être une activité normale, il y en a toujours qui nous rappellent que cette guerre, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup de malheur. Et donc, Kevin Lamberdière-Casta, de la Ligue des droits de l'homme, présent lundi 11 novembre devant le monument dédié à la paix à Alon, nous a dit ceci.
Je voudrais conclure cette prise de parole avec une citation provenant de L'art de la guerre de Sun Tzu. La guerre ne connaît pas de vainqueur, elle ne connaît que des veuves et des orphelins.
Eh bien voilà une conclusion qui malheureusement ressemble à la cruelle réalité, au-delà de tout ce que l'on peut entendre comme propagande sur la gloire que l'on peut obtenir en défendant sa patrie lors des conflits. Il y a des bouquins entiers sur le sujet. Bon, si vous voulez savoir ce qui se passe la semaine prochaine dans notre belle contrée, n'oubliez pas d'aller voir sur sarthe.demosphère.net, sarthe.demosphère.net, des réunions en veux-tu en voilà, un festival qui s'appelle le festival Festisol, festival des solidarités qui a lieu en ce moment, activités diverses et variées, et puis peut-être que dans la corporation dans laquelle vous travaillez, il y a une grève qui se prépare. Il s'agirait de participer. Pourquoi ? Parce que là, pour l'instant, je rappelle quand même qu'on est dirigé par la droite qui n'a qu'un seul but, faire de nous des ressources humaines. Alors, en attendant de se voir dehors ou dans l'une des manifestations dont nous sommes en train de parler, eh bien, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.